Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h05, le Super Moscato Show. On y revient, bien entendu, au mastic. Vous savez qu'on est là tous les jours, de 15h à 18h, du lundi au vendredi. Oui, parce qu'on n'est pas des feignasses, nous. On bosse 40 heures par semaine, on est le stifoulet, bref.
Salut, Vincent. Comment il va ? Ça va ou quoi ? On peut pas ?
Un en avant, là, je viens de voir un en avant. C'est-à-dire, un café renversé sous ma table, Denis. Tu fais plus en avant.
Un par semaine.
On va vérifier, si on va faire des tests s'il n'y a pas de Parkinson, quand même. Parce que pour trembler comme ça avec ce café, il est avec nous.
J'en faisais pas trop d'en avant, moi, tu t'en souviens très bien.
C'est pour ça, ça m'inquiète quand je vois cette somme de café renversé sous
la table. C'est la vieillesse. Vincent,
voilà.
Ah, mais déjà, il y a dénonciation parce que c'est interdit.
C'est
de boire des cafés en studio.
Ah,
voilà, tu vas détériorer le matériel.
Et au bout de 10 blancs, qu'est-ce qu'on
fait? Non, peut-être qu'on peut juste lui faire payer les réparations.
Ah oui, là,
de sa poche.
Ah, s'il faut payer les réparations d'ici, parce qu'il n'y a pas que ça qui marche.
Oui,
pas.
Oui,
je te le dis. Là, c'est quand même télé radio Valdadou, comme on disait à Gaillac et à Grouillet. Stifoulet,
tu vois, je
suis bien sûr, Adrien.
Comment ça va?
Comment ça va, Adrien?
J'ai une question moyenne, vous l'attendez tous, sur l'Olympique de Marseille. Forcément, on est obligé là.
Oui,
désolé, supporter marseillais, mais là on est obligé. Quel est le plus probable pour l'OM cette saison? L'OM gagne la Coupe de France,
ou
Roberto De Zerbi est écarté, il ne termine pas la saison. Il est écarté avant la fin de la saison. Quel est le plus probable? L'OM gagne la Coupe, il y a trois matchs à gagner. Hein. Le quart de finale à domicile face à Toulouse. Ou De Zerbi ne termine pas la saison sur le banc
d'OM. Ils peuvent gagner la Coupe sans Roberto De Zerbi.
Oui, mais alors là, sur quoi tu mettrais un billet? Quel est le plus probable, Stephen?
Le plus probable, c'est que l'Olympique de Marseille gagne la Coupe de France. Je pense que c'est trop cher pour éjecter Roberto De Zerbi.
Tu crois que c'est trop cher?
Non, moi il dégage.
Le plus probable, c'est De Zerbi
dégage, oui.
Là, si tu retouches la sensibilité du vide, du vireur d'entraîneur de Nîmes, bien sûr.
Non, là, je suis.
Là, c'était ma courte, tu dis on le dégage.
Après le match d'hier, non.
Ouais, c'est humiliant.
Non, les joueurs, c'est honteux ce qu'on font les joueurs.
Il faut le mettre devant le fait accompli. Tu lui dis, bon, t'as vu le boulot que t'as fait, on sera déjà à l'amiable. Une poignée de main.
Oui.
Et puis, si tu envoies deux faux témoins de.
Voilà, Pierrot d'Orient.
Voilà. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, peut-être que pour gagner la coupe, il faut virer De Zerbi.
Ah,
donc, je dirais que le plus probable est de virer De Zerbi.
Plus intelligent.
Vincent, pour toi, le plus probable.
Virer De Zerbi.
De Zerbi, viré, écarté ou démission, on ne sait jamais.
Oui.
Vous répondez sur Twitter à cette question moyenne.
Démission à 8 millions, si je ne connais pas beaucoup.
À 78%, Vincent, pour vous, le plus probable, c'est que De Zerbi ne termine pas la saison sur le banc de l'Olympique de Marseille.
Ah oui, non.
On en est là, à Marseille.
Oui, non,
on en est là.
Bien sûr.
La manita hier, 5.
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire venir, là?
Ça peut arriver.
Il y a Abigail.
Là, je vais voir le cancre qui va être.
En plus, ça peut arriver dans la journée. Hein.
Qui est disponible? Laurent Blanc est disponible, il a joué à l'OM.
Galtier va aller à Rennes.
Il a 60 barreaux, Laurent, il n'en veut plus du Mastic.
Antoine Comboiré est disponible.
Il faut sortir. Abibay, c'est un Marseillais qui a revendiqué, assumé, les supporters l'adorent.
Ça t'a péré, toi.
Il vient de se faire virer de Rennes.
Non, mais là, regarde, c'est
ouais.
Ils sont un péré.
Biro,
Eric Dimeco,
Galette.
Christophe
Galette, il est en poste, en arbitre.
Mais
il peut s'arranger.
Eric Dimeco. Il y a trop d'oseille là-bas, t'es fou.
Ouais, Néon, il gagne 15 millions par an.
Il gagne 15 millions par an, là, il va lui donner le denier du culte.
Je suis pas sûr, il est Marseillais, lui, de cœur.
Ouais, bien sûr.
Basile est dispo.
Moi, je pense qu'il faut.
Connaissant la politique de l'OM, je pense un candidat, c'est Ruben Amorim, par exemple.
Oui, qui vient de se faire virer de
Manchester United.
Moi, je pense qu'il faut.
Il gagnera moins d'argent qu'à Manchester.
Il faut un truc bicéphale, c'est-à-dire Eric qui vient avec Basile Boli.
Un peu
de grand frère qui gère un peu ça pour l'esprit et tout ça.
Et en plus, avec son nouvel ange,
de grand frère.
Alors, en tout cas, pour l'instant, on spécule, puisqu'à l'heure où on se parle, Roberto De Zerbi est toujours l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.
Quand tu spécules, quoi tu veux, Pierrot.
Oui, OM, que faut-il changer? 17h, venez au 32-16 si vous voulez défendre De Zerbi ou l'accabler, les deux sont possibles. 32-16. Est-ce qu'on change une équipe qui gagne? On parle du 15 de France, retour de Flamand, retour de Boudehan. Que fait-on d'Olivon, Vincent? Est-ce qu'on peut vraiment le sortir de l'équipe après un match comme ça?
Non, le Grey Charles, c'est des joueurs marrons, quoi.
Et on va démarrer par Lynn Sevone, panache ou inconscience. Elle s'est fait réopérer une deuxième fois aujourd'hui. Les nouvelles sont pas géniales. Alors, le ski alpin, on y est, donc en direct de Cortina d'Ampezzo avec Sébastien Amier et Léna Marjac. Bonjour, messieurs, dames.
Salut tout le monde.
Salut le Moscato, bonjour à tous.
Alors, on aurait bien aimé démarrer avec une médaille. Il y aura une cinquième place pour l'équipe de France, pour une des équipes françaises engagées sur le combiné par équipe, Léna.
Oui, pour Clément Noël et Nils Allègre, il y a un petit peu de déception parce qu'évidemment, c'était notre équipe de France numéro 1, notre équipe de France sur le papier qui était la plus forte. Nils Allègre avait très bien commencé la journée en terminant 6e de la descente. Il fallait que Clément sorte une grosse manche. Malheureusement, il n'a pas réussi à s'adapter sur cette piste qu'il découvrait lui aussi, hein, cette piste des Jeux Olympiques à Bormio. Donc ce serait une 5e place avec une victoire aujourd'hui suisse de Tanguy Neff et Vranjo Van Almen qui va chercher déjà son 2e titre en 3 jours, c'est vous dire. Eh bien, le caractère et le talent de ce jeune. Et du côté de nos deux autres Français, Maxence Musaton et Paco Rassa finissent 15e. Et Nils Alphand et Steven Amier finissent 16e.
16e, Steven.
Et à 13 centièmes de la médaille d'argent. Hein, aujourd'hui, ça se joue à 13 centièmes hein, seulement.
Pas loin.
Voilà, les centièmes sont chers encore une fois, mais c'est la course, malheureusement.
Alors, ça, c'était pour l'épreuve du jour. On va revenir aussi sur l'événement du week-end, la descente d'âme avec Lynn Sevo dans un instant. Juste le temps de vous rappeler que ce vendredi, c'est jour de chance, vendredi 13, vous pouvez gagner jusqu'à 30 000 euros écoutant le Super Moscato Show et en écoutant RMC toute la journée, car si vous avez de la chance, vous tournerez la roue RMC.
C'est
la roue RMC pour vous faire gagner de
30 000 euros à 30 000. Procure un jour un pyro que j'ai.
Donc pour ça, vous nous écoutez, à tout moment, l'alerte peut tomber pour vous inscrire. Et puis, on a un très beau cadeau. Oui. Dans le Kikadi, on vous offre des maillots du 15 de France vintage aujourd'hui.
C'est bon, ça.
À gagner dans le Kikadi.
C'est-à-dire des maillots avec, que Denis a joué avec vintage.
Alors, Encore avant. Le maillot premier coq. Le premier coq qui avait apparu sur un maillot de sport.
Ah ouais, rembourré sur les épaules comme ça, avec un lacet de 1800. Devant. Ouais, 1890, 1900. Ouais, ouais.
Ça pour vos soirées. Dans le Pays Basque.
Ça au Pays Basque.
Tu fais un carnage.
Bah oui, tu vas pas. À l'Arc de Triomphe. Donc ça, tu te maries au Pays Basque. Ça, je vais te dire un truc. T'as pas, mais c'est vrai.
Le
beau-père, le mari de la mariée, le père de la mariée, même arrive comme ça, même la mère de la mariée de mes.
Allez, vous envoyez Kikadi par SMS au 7-32.
Moi, j'avais vu le Pays Basque arriver comme des merdes.
Tu rigoles, tu te moques du Pays Basque, mais Gaël, t'es mère avec ça, hein.
J'étais d'ailleurs. Ouais, j'embrasse la dame de mer. J'embrasse tout le monde. Il y a quoi qu'on gagnait contre Mazamé.
C'est plus le même mer qu'avant. Ça avait changé. Ouais.
On a eu un qui avait pas bien marché. Et donc là, c'est pas le même. Mais là, oui. Là attention.
La fête des lumières continue.
Ça brille moins. Et c'est moins intense là. Mais non, mais ça marche bien. On a un club, on est troisième.
Super.
On a battu Mazamé dans un derby endiablé sous la pluie.
Chute d'audience.
Bravo Gaillac.
Non,
l'UAG n'est pas mort.
Allez, on revient aux Jeux Olympiques. Tout de suite, on revit la descente de Lynn Sevon.
RMC, le Super Moscato Show.
C'est le grand moment de ce début des Jeux Olympiques, cette descente femme avec Lynn Sevon. 41 ans, un genou gauche amoindri depuis une semaine avec cette rupture des ligaments croisés. Et c'est parti à l'instant pour l'américaine. Tout de suite, cette position de recherche de vitesse sur cette piste de la Tofane qu'elle connaît parfaitement. 12 victoires ici, dont 6 en descente. Elle est presque chez elle. Oh là là, la chute dès le premier saut. L'énorme chute de Lynn Sevon dès le premier saut. On espère évidemment qu'elle ne s'est pas fait plus mal, l'américaine.
Je pense qu'effectivement, son corps déjà abîmé par de multiples blessures tout au long de sa carrière, eh bien, n'a pas tenu. Alors, elle a très mal engagé ce saut. Elle est mal retombée. Et effectivement, elle est retombée sur un appui pied gauche. Et on rappelle que c'est son genou gauche dont le ligament a rompu il y a quelques jours. Les secouristes qui arrivent et qui sont toujours autour d'elle. La course est évidemment interrompue. Elle risque de l'être pendant un moment. Breaking
news. Alors, moment glaçant lors de la descente féminine. Lynn Sevon chute et se brise la jambe. Ses cris de douleur déchirent le ciel de Cortina. Et Vincent, on va revenir sur ce pari fou parce qu'on le sait, elle a skié avec le ligament croisé antérieur du genou gauche rompu. Elle a décidé de skier malgré tout. Était-ce du panache ou de l'inconscience? 32-16 pour débattre avec nous. Léna, les infos sont pas très très réjouissantes hein, de Lynn Sevon qui s'est fait opérer une deuxième fois.
Oui, effectivement, une deuxième opération après celle donc déjà subie hier pour une fracture de la jambe gauche. Alors, on risque d'avoir très peu de nouvelles par la suite parce que l'équipe de l'Insevon a demandé à ce que maintenant les équipes médicales de l'hôpital où elle se trouve à Trévise ne communiquent plus sur l'état de santé de l'américaine. Donc, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a effectivement eu cette deuxième opération. Elle est toujours en observation, l'américaine de 41 ans. Et pour revenir sur ce qui s'est passé hier, hein, c'est vrai qu'au départ de cette descente, eh bien, on l'attendait. On savait qu'elle avait ce genou gauche qui était déjà meurtri par une semaine avant après cette rupture du ligament croisé antérieur. Et en fait, c'est pas cette blessure hein, qui a causé la chute parce que au moment où elle arrive sur cette porte, eh bien, elle se prend le bras dedans, ce qui la stoppe d'un coup net à plus de 100 km/h. Donc, c'est forcément, il y a des dégâts. Et derrière, elle tombe et elle tombe sur ce genou gauche. Donc, ça a empiré évidemment ce qu'elle avait. Donc, on va essayer d'avoir des infos. On espère qu'à un moment donné, il y aura une communication officielle de la part de l'équipe de l'Insevon. Mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'elle a eu cette deuxième opération d'une fracture donc de la jambe gauche.
Alors, Vincent, est-ce qu'elle a pris un risque inconsidéré ?
Elle était obligée de prendre des risques. Si je pense qu'elle frôle ça faisait partie des risques de prendre les virages les plus courts possibles. Ça fait peut-être partie aussi du jeu. Et donc, elle a pris un risque inconsidéré. Non, elle a fait des essais. Ça allait. Elle connaît mieux son sport que nous. Après, de jouer avec une fracture, de jouer au rugby, tu joues des fois avec des pètes, des fractures. Au football, c'est arrivé. Eric nous parlait qu'il avait joué une finale avec les croisés pétés. Là, sur une minute et demie, je pense qu'en ski, à ce niveau-là, je pense que ça se tente. Donc, c'est pas inconscient.
C'est la malchance, voilà.
C'est la malchance complètement. Ça n'a rien à voir avec son genou. C'est pas le genou qui a lâché, qui a entraîné une chute. C'est peut-être de prendre, ça, je suis pas spécialiste là-dessus, mais peut-être de prendre des risques, de frôler la porte pour avoir des virages plus serrés. Peut-être que ça n'a rien à voir. Mais on peut penser ça parce que c'est une erreur technique qu'elle ne fait pas, elle d'habitude. Mais de la voir comme ça, je dis, putain, excusez-moi, mais c'est dramatique parce que peut-être qu'elle avait encore ses chances et puis quel sens du devoir de cette abnégation de vouloir faire ce, à 41 ans, ce retour. Quel courage. Mais non, mais elle est dans les temps. Encore compétitive. Tu peux pas empêcher quelqu'un qui a envie de gagner davantage, de pas vouloir arrêter sa carrière. Surtout, c'est tous les 4 ans. C'est pas un truc, c'est comme un combat de boxe. Tu peux pas. Le mec, on le sait, chaque fois, on se le dit. Chaque fois, si t'as 30 matchs à faire dans l'année, il faut arrêter. À 36, 37, 38 ans. Quoi qu'au foot, encore, il y a encore des mecs en défense et tout ça qui arrivent à jouer jusqu'à 40 ans. Donc pourquoi arrêter quand t'as encore la passion? Surtout, pourquoi ne pas revenir, parce qu'après c'est fini. De toute façon, après, elle a 40 ans ou 50 ans à vivre, ou elle fera plus du ski, ou elle fera du ski avec ses gosses. Donc c'est pas la même. Moi, je trouve que je lève mon chapeau.
Elle n'a aucun regret à avoir.
La fracture, c'est que dalle. Il te l'opère, il fout 3 clous. Mais non, mais une fracture, sérieuse,
c'est
le destin. Et après, il lui faut en même temps, pourquoi 2 opérations? Parce qu'ils lui ont fait le genou et ils lui ont fait la fracture du machin, c'est tout. Mec, il dit 2 opérations comme si c'était une opération cardiaque.
Sur la jambe, le genou, ils n'ont pas fait.
Est-ce que c'était du panache ou de l'inconscience de la part de l'Insevon?
Moi, je pense que c'était du panache. J'aime bien entendre parler Vincent comme il parle là, parce que c'est vrai que on peut pas prendre on peut pas avoir de jugement sur la décision de l'INSEE. Le jugement qu'on a, c'est, il faut le respecter. Elle a fait un break pendant 6 ans. Elle a tout remis en place pour essayer de revenir sur ces Jeux Olympiques avec son staff, en choisissant un ancien champion comme entraîneur. Vraiment, elle a bossé physiquement, hein, vous pouvez le voir sur les réseaux, oui. On la voit tout le temps vraiment travailler. Elle est pas arrivée là comme ça, hein, la fleur au bout du fusil. Non, elle s'était préparée justement, on l'a vu dès le début de la saison avec la Coupe du Monde où elle a tout de suite été compétitive. Le seul truc qui lui a commis un défaut cette année, c'est qu'elle soit en tête de la Coupe du Monde en arrivant à Crans-Montana avec le maillot rouge sur le dos. Peut-être que si elle n'avait pas été avec le maillot rouge de leader de la Coupe du Monde, elle ne se serait peut-être pas alignée à cette descente de Crans-Montana. Elle se serait préparée que pour les Jeux Olympiques. Malheureusement, là, elle joue les deux tableaux. Elle a joué les tableaux de la Coupe du Monde et le tableau des Jeux Olympiques. Et comme le dit Vincent, la fatalité, l'accident, il peut arriver n'importe quand. Oui. Il aurait pu arriver avant-hier à l'entraînement. Il aurait pu arriver avant l'accident de Crans-Montana. Sur une journée d'entraînement, tout bêtement. Malheureusement, le risque zéro, il n'existe pas. Elle était prête physiquement, elle était prête mentalement pour courir. Après, elle a couru effectivement avec une attelle. Latel, s'ils ont jugé bon de la mettre, c'est qu'il y avait une raison, ça tenait le genou, que musculairement dessous ça tenait aussi, et elle a pris le risque. Voilà, ça joue à 10 cm la main dans le piquet qui conditionne la course. C'était pas son jour, le vendredi, le 13 c'était pas son dossard, et puis 13 secondes de course, tu vois, comme quoi des fois c'est écrit là-haut dans le ciel.
Très attendu.
Steve, qu'est-ce que t'en penses?
En fait, je sais pas si on peut vraiment mettre en corrélation ce qui s'est passé, cette chute-là, avec sa blessure au genou, parce qu'il y a personne aujourd'hui qui est capable de dire c'est parce qu'elle avait cette blessure au genou qu'elle a pris ces trajectoires-là.
Apparemment,
moi, j'ai quand même l'impression.
La gravité de la blessure est probablement due au fait que ce soit déjà abîmé.
D'accord, Pierre, maintenant.
Elle prenait la ligne droite.
Elle jouait la gagne, c'est pour ça qu'elle a pris des trajectoires très serrées, parce qu'elle voulait être championne olympique, et elle avait les qualités pour, puisqu'elle l'avait montré sur le début de la Coupe du Monde. Maintenant, ces gens-là, moi, c'est pas des gens inconscients. C'est déjà quand tu fais du ski alpin et que tu choisis comme discipline la descente, ça veut dire que t'as peur de rien. Parce que tu aimes le risque, parce que tu vas à 100, 110, 120 km heure, c'est très dangereux et tu le sais. Donc, ce qui faisait mal, c'était le silence en fait sur la piste et les cris de l'Inserone. On avait fait des émissions, il y a des skieurs qui ont gagné des compètes avec ce genre de blessure là, donc j'ai pas envie de dire que c'était un truc inconscient en fait. Non. Elle était capable de le faire, elle a voulu jouer la gagne.
C'est la grande championne.
Et peut-être que si elle avait pris moins de risques et qu'elle était allée en bas et qu'elle avait fini 14e, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit finalement elle aurait pas dû s'aligner. Là, elle a joué le
mieux qu'elle fait.
Non, pas mieux. Mais maintenant peut-être que c'est une fin de carrière. Maintenant
c'est le genou. Dans 6 mois 8 mois c'est fait. Moi je vais te dire, l'inconscience c'est par rapport à ton niveau de conscience. Non, toujours pareil, c'est un niveau de conscience bas, t'es vite inconscient. Voilà,
bon, je sais pas ce que je partais, ce que tu voulais dire, mais on a grimpé. Denis Charvet,
d'abord
il faut rappeler quand même qu'aux entraînements il fait 3e en levant le pied, d'après ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'elle fait 3e et 3e je crois, ou 2e, 3e, elle a fait 2 courses. Elle a 2 courses d'entraînement.
2 entraînements.
Non, mais elle est 2 entraînements. Donc ça veut dire que le niveau elle l'avait. Après, on sait qu'en haut de la descente, il faut prendre de la vitesse, et donc je pense qu'elle a pris tous les risques pour gagner. Parce que l'Américaine, sa compatriote, a fait un énorme temps. Donc elle s'est dit, pour être championne olympique, il faut que je sois au max de la vitesse en haut. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la porte.
La plus droite.
Elle prend tous les risques inconsidérés. Ouais. Mais moi, ce que je trouve génial dans cette histoire-là, parce que c'est une romance, c'est... En fait, elle veut pas mourir, quoi. Elle a 41 ans, elle revient sur le circuit en tant que sportif. On parle de la petite mort. Mais elle, la petite mort, elle la veut pas. Donc, elle revient 6 ans
de retraite, t'imagines?
6 ans après, elle revient. Elle veut regagner. Elle regagne parce qu'elle a regagné des courses en Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Déjà, c'est extraordinaire. Et là, bon, effectivement, le dernier pari, le dessin n'a pas voulu. Je me dis quand même, c'est d'un panache incroyable, d'un courage incroyable.
Ce que veut nous dire Denis, c'est qu'il pense que Lynn Simon va mettre le scaphandre.
Oui, mais non. Mais 41 ans, c'est
Bastoun, malgré tout, si on veut chercher la petite bête, un petit signe de fébrilité du fait qu'elle veuille attaquer comme ça et prendre un risque en faisant une énorme faute, parce que, et peut-être dû aussi à sa blessure, dans la tête, elle n'est pas à 100% peut-être.
Mais je pense que...
Je pense qu'elle est, c'est la course des jeux, c'est le grand jour, les entraînements, c'est la veille. Tu es obligé de mettre le curseur au-dessus. En plus, ça arrive vraiment sur ce premier appui pied gauche. Mais on voit bien sur les images que c'est pas le genou gauche qui est défaillant. Hein. C'est qu'elle met beaucoup de puissance dessus pour peut-être se tester pour la continuité de la course, en se disant le premier gauche je le teste et puis on
ça
verra
tient, c'est bon,
et, hein. Et puis elle taille la courbe de folie, et comme elle taille de folie, ça fait une petite compression, elle mord très vite, le ski mord très vite, et là ça l'emmène directement sur le piquet, et elle met la main à l'intérieur, mais pour 10 cm. Et là, on voit vraiment la rotation du corps. Elle était à peu près à 85-90 km/h. Mais tu imagines bien, quand tu mets la main dans une porte à 90 km/h, vous essayerez de sortir. Quand vous roulez en bagnole, vous sentez les mains à 90 km/h, on sent tout de suite l'air qu'il peut y avoir. Mais ce qui est dommage, c'est l'histoire qui était écrite, le retour de l'INSEE a déjà été attendu par tout le monde, par le monde du ski, mais pas que.
Du sport.
et du sport Bastoun, en général, bien sûr.
Bastoun, le numéro, le dossard 13, c'est pas un bon dossard pour elle, non?
En Italie, non. En Italie, il n'y a pas de chambre 13, il n'y a pas de siège d'avion 13, il n'y a pas de.
Non, mais je veux dire. 13, c'était mieux pour elle quand même, non? Elle serait partie dans les premières.
Tu crois? Oui, mais après, tu sais, c'est un tirage au sort de 6 à 15. C'est
bien tenu, non? Il n'y avait pas de problème.
Ah non, non, il n'y a pas de souci de piste, ça, c'est pas. On ne peut pas incriminer les organisateurs. Il y a eu un bourrelet ou il y a eu de la neige molle. Non, non. Elle a mis l'audace, comme vous l'avez dit. Vous l'avez très bien expliqué.
Elle, panache ou inconscience.
Elle a mis le panache. Et parce que son objectif de retour, c'était d'être championne olympique.
Vous êtes très nombreux à appeler.
Et Bridget Johnson, l'américaine, avait mis la barre haute et elle savait qu'il fallait sortir la grosse manche.
Vous avez tous suivi cette descente. Vous êtes très nombreux à appeler. Nous accueillons Jacques au 32-16. Jacques, bonjour.
Salut Jacques.
Salut.
Salut Jacques.
Jacques de Valence dans la Drôme.
De Valence dans la Drôme. Oui, pardi.
Ça va skier de temps en temps le week-end, Jacques?
Ben, plus maintenant, mais j'ai beaucoup skié.
Plus maintenant, à 77 ans, vous êtes un jeune homme.
77 ans, quand même.
Le plan obligatoire.
Jacques au ski, t'as vu maintenant, il y a des trucs pour les anciens, des espèces d'articulations là où tu peux les mettre sur les.
T'as raison.
Sur les, tu parles de qui là?
Comme des prothèses.
Tu parles de qui là?
Pour toi.
Bastoun, il aimait.
Je vous les conseille tous. Ils ont tous rigolé quand ils me voient avec.
Ah, mais c'est toi qui me les a montrés. Bien sûr, je me suis dit, qui c'est qui me les a montrés? C'est toi, bien sûr.
Jacques, alors, panache ou inconscience?
Alors, inconscience n'est même pas un mot assez fort. Vincent, je t'aime beaucoup, mais je ne sais pas si tu as beaucoup fait de ski.
Ah, si,
mais interroge n'importe quel médecin ou moniteur de ski dans une station, il t'autoriserait même pas à mettre les pieds sur un ski avec un ligament en moins. Elle ne pouvait même pas arriver en bas. Il n'était pas question de faire une performance.
Elle est arrivée en bas.
Elle ne pouvait pas arriver en bas.
Mais si,
aux entraînements, elle est arrivée.
Elle a fait des entraînements.
Des conneries, quand même.
Aux entraînements, elle est arrivée troisième.
Non. Là, vous êtes complètement à côté de vos problèmes. Appelez un moniteur, appelez un médecin.
Jacques, on a un vice-champion olympique de ski, quand même, à l'antenne.
Vas-y, alors dis-nous.
Et vice-champion du monde.
Et vice-champion du monde. Et moi, champion du monde. Tu peux parler, quand même.
Non, là, les gars, vous êtes à côté de vos problèmes.
Jacques, complètement.
Juste Bastoun pour conclure. Peut-être qu'il faut expliquer que Jacques dit quelque chose qui n'est pas non plus une aberration. C'est-à-dire
mais
que
non,
si, voilà, si tu n'es pas sportif de haut niveau, tu ne le fais jamais.
Oui, bien sûr.
Je comprends le raisonnement de Jacques aussi, et forcément, ça pose des questions. Mais aujourd'hui, on est fait pour ça. L'athlète de haut niveau, il est fait pour se faire mal tous les jours. Tous les jours, on a mal. Même quand on est blessé, on essaye de trouver des solutions, parce que le sport qu'on fait là, c'est l'instant T. On peut pas dire on le refera dans 10 ans, on peut pas dire on le refera dans 15 ans. Donc tout ce qu'on a mis en place par le passé, on est obligé de prendre le risque maximum. Et le risque maximum, il peut emmener à ça.
Alors le risque aussi, c'était qu'elle aille passer la soirée à la Folie Douce, la veille. Est-ce que ça, c'était conseillé?
Ça, le problème, c'est que vous le faites. Ouais, vous le faites, vrai, ouais.
Jacques, il était chaud là.
Mais Jacques, il est parti. Jacques,
il est toujours là.
Jacques,
Vautier était champion olympique avec un ligament en moins.
Oui, mais c'est attention, Vautier, il avait eu 3 ou 4 mois pour se préparer.
Oui, mais malgré tout, il était encore blessé.
Un ligament en moins, il faut faire un renforcement musculaire énorme.
Jours avant.
Là, en une semaine, on n'a pas le temps.
Moi, je vous conseille de continuer les saucisses, mais arrêtez le vin blanc.
Voilà, c'est une belle conclusion. Merci, Jacques.
On t'embrasse, Jacques.
Merci, Bastoun. Merci, Léna.
Salut, les gars.
Prochain rendez-vous de ski alpin sur le calendrier, Léna.
Eh bien, ce sera demain avec du côté de Cortina. Avec le, on a eu le combiné homme aujourd'hui. On va avoir le combiné par équipe femme demain. Donc première épreuve à 10h avec la descente femme.
Merci beaucoup Léna. Et ce soir, c'est le début de la compétition de couple de danse sur glace, pardon, en patinage artistique. On sera avec Arnaud Valadon tout à l'heure. En direct.
Tout, quand t'es gamin, quand tu connais pas trop le patinage,
c'est magnifique.
C'est ça te passionne pas au départ?
J'adore, moi.
Mais après, maintenant,
j'adore regarder.
C'est de la gym, hein.
Avant, ouais, c'est de la gym.
Le truc, c'est que je comprends plus rien.
Des experts en notes, de toute façon, les uns et les autres.
Moi, mes notes à l'école, je les comprenais pas, des fois. 15h28.
Le Super Moscato Show. Le 15 d'Italie, tout de suite.
Allez, reviens tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient au mastic dans le Super Moscato Show, il est 15h32. Oh non, on est heureux, il y a le Denis qui est avec nous, il y a le grand Stephen, Adrien Gouet, Pierrot, dans une demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Alors, dans une demi-heure, question simple qui va nous faire cogiter. Faut-il changer une équipe qui gagne? Est-ce que ce 15 de France victorieux de l'Irlande va devoir être modifié puisqu'il y a des tauliers qui reviennent, et notamment Thibaut Flamand en deuxième ligne. Débat fort intéressant, Vincent. Mmh. Je sais ce que tu vas dire.
Oui, non, mais moi je le sais aussi. Hein.
Ah oui.
Ce que je vais dire. Pas ce que tu vas dire. Hein.
Rendez-vous à 16h. Mais d'abord, on parle de l'Italie.
RMC. Le cri du cœur du super Moscato Show.
L'Italie a frappé fort, c'est notre cri du cœur. Victoire 18-15 face à l'Écosse, Vincent. Sous un déluge qui a favorisé les Italiens parce qu'ils menaient au score. C'est vrai, il y a eu des circonstances favorables. Mais, Pierre Thévenet, on a aussi remarqué qu'avant l'inverse, l'Italie avait joué et bien joué.
Oui, ils ont mené toute la rencontre. Les Italiens, ils ont marqué en premier, étaient plus tranchants. Ils ont franchi 5 fois la ligne de défense écossaise. Les Écossais n'ont jamais passé cette ligne de défense italienne. Ils ont une super ligne de 3 quarts avec notamment le centre toulonnais Brex, le futur toulousain Menoncello, mais aussi un paquet d'avant qui s'est densifié. Leurs piliers jouent à Northampton, leur talonneur au Stade français. Et pour les entourer, il y a une grosse ossature de Trévis, des joueurs qui jouent ensemble toute l'année, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ils ont aussi été meilleurs en mêlée fermée, ce qui est rare pour l'Italie, et une énorme perf défensive en fin de match. Surtout, une victoire qui s'inscrit dans une progression. Il y a 2 ans déjà, les Italiens avaient battu l'Écosse 31-29 à Rome, après 13 défaites consécutives. Et même si c'est toujours compliqué contre les top nations mondiales, la Squadra Azzurra a laissé au Pays de Galles la dernière place du tournoi depuis 2 ans, et reste sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs, dont un succès face à l'Australie en novembre. Ils ont joué les box notamment aussi cet automne, ils n'avaient pas été ridicules, et le sélectionneur Erasmus avait souligné leur progression, pariant sur une 2e ou 3e place pour les Italiens dans le tournoi. Ils ont 2 gros tests à venir pour ça, en Irlande samedi après-midi et à Lille pour affronter les Bleus le week-end suivant.
Vincent, est-ce qu'ils t'ont impressionné?
Non, mais ça fait plusieurs années quand même maintenant. Alors plus ou moins, des fois ils ont manqué de chance, mais c'est parce qu'ils n'arrivaient pas assez à s'imposer. Mais là, de plus en plus ils s'imposent, ils sont équilibrés devant, derrière, ça joue bien, les 2 essais sont magnifiques, ce coup de pied, ça récupère le ballon derrière, ils battent la défense, c'est plutôt intelligent. Ils marquent 2 essais extraordinaires, ils ont une mêlée qui tient la route, des lancements de jeu qui sont du meilleur niveau possible. Que l'Écosse se perde là-bas, c'est une surprise, mais pas tant que ça. Et méfiez-vous qu'il n'y en ait pas une autre qui morfe. En plus des Gallois, les Gallois qui vont prendre un carreau, méfiez-vous qu'il n'y en ait pas une autre équipe qui morfe.
Italie, France ou Angleterre.
Attention.
Devant, ils peuvent rivaliser avec notre pack de très haut niveau.
Non, mais
ça a changé, ça en Italie.
Et derrière, c'est organisé.
C'est très faible.
Il y a toujours des équipes qui sont handicapées. Les Écossais, si, ça, on est habitué à jouer au rugby, je le répète, avec des mecs sur le côté. Après, il faut juger la prestation des Italiens, qui a été très belle, parce que je ne suis pas persuadé, bien sûr, que la pluie, ça a gêné le plus fort. La pluie gêne toujours
ça nivelle les valeurs.
Mais il faut se le gagner, celui-là. Nous, on n'est pas sûr. Si y a un match qui est dangereux, je te le répète, Denis, si y a un match qui est dangereux, c'est en Écosse. Celui-là, il n'est pas fait. L'Angleterre, il n'est pas fait. Nous, on fait les shows parce qu'on a rencontré une équipe. Quand tu sors en Écosse, crois-moi, on s'est fait des fois défoncer en Écosse, comme il faut. Alors écoute-moi, je pense que les Anglais, avant de se faire cette finale, faudra quand même les jouer.
Un peu, hein.
Oh, tu nous emmerdes, toi.
Il a décidé de t'embêter dès lors.
Sans aucune raison, j'ai une semaine de repos.
Pourquoi? Je te chante pourquoi? Parce que les Écossais ont paru en grande difficulté.
Non, il pleut, ils se sont fait battre contre une équipe d'Italiens costaud devant. C'est pas la première fois qu'ils les tombent, les Italiens. Les Italiens, ils ont déjà battu l'Écosse.
2024.
Ben oui, ils ont déjà battu. Non, méfiez-vous, le tournoi est très relevé. Je te dis, nous, on a eu la chance, on tombe sur l'équipe d'Irlande. On fait un très bon match. Mais il y a une équipe d'Irlande qui est quand même.
Meilleure que l'Écosse, non?
Ouais, qui est meilleure que l'Écosse, là.
Quand même, Vincent.
Sur l'Irlandais, non? Sur l'Irlandais, je suis pas sûr. Non, mais vous trompez pas. Dans l'Irlande qu'on a vu là.
Oui,
là, l'Irlande de Colombie, elle n'est pas meilleure que l'Écosse. Hein.
Donc, non, mais que l'Écosse qu'on a vu là aussi.
Mais d'habitude, l'Irlande, je ne suis pas sûr que dans le même contexte, avec l'équipe qu'ils avaient l'Irlande, en Italie, je ne suis pas sûr que l'Irlande s'en sorte.
Ah, voilà. Tu as raison. Je suis entièrement d'accord avec toi.
L'Italie d'abord.
Alors, l'Italie fait une très grosse performance. Ils m'ont vraiment surpris, bluffé, parce que je ne pensais jamais qu'ils allaient perdre contre l'Écosse. Jamais. Et il faut dire qu'ils ont pris dans tous les compartiments du jeu, devant, derrière, en mêlée.
Pas qu'ils allaient gagner. Gagner,
parce qu'en plus j'avais parié l'Écosse, donc si tu veux. Mais après j'étais admiratif parce que ils ont été d'un courage, d'une abnégation, ils les ont pris en touche, en mêlée. Là où je suis pas d'accord avec Vincent, c'est que la pauvreté de la mêlée écossaise. Donc je me dis quand même que cette équipe écossaise, moi je veux bien, hein, moi je l'aime bien, mais là elle a explosé en vol. C'est-à-dire qu'elle a été lamentable dans le combat, dans l'agressivité, elle s'est fait prendre partout. Alors, est-ce que c'est l'Italie qui est très forte ou l'Écosse qui est moins faible?
Mais c'est pas la première fois que l'Italie a une bonne mêlée. Hein. Ils se font rarement chahuter.
Ouais,
rare,
mais, mais t'as vu comment ils ont explosé.
Oui, ils ont explosé.
En 2023, il va avoir une très belle mêlée contre
l'Italie. Non, mais là. Après, méfions-nous de l'Italie. Oui, c'est ça qui est inquiétant parce que tu te dis, l'Italie, l'année dernière, on bat à Rome, on leur met 70 points. Tu te demandes parfois comment.
Il a failli perdre contre à Lille.
Le problème, c'est que si t'attaques avec eux, ils peuvent pas se permettre d'avoir 5 ou 6 blessés ou 7.
Oui.
Si t'attaques avec une équipe à peu près type, avec les mecs qui sont en pleine bourre,
ils peuvent se secouer. Au début du tournoi,
ils peuvent te secouer.
Ils vont récupérer Capozzo, c'est pas mal.
Ils vont en Irlande. Alors, le problème des Italiens, c'est la constance dans le tournoi. Parce que le tournoi est dur et long. Donc, si tu veux, là, ils vont en Irlande, ils vont enchaîner les matchs.
Trop de gnocchi, après, ils mangent trop.
C'est la vérité. L'Italie, c'est une vraie équipe de rugby et que si tu prends pas le match par le bon bout, c'est compliqué. En revanche, une équipe de France à son niveau, quand elle démarre bien contre l'Italie, ne perd pas.
T'as raison, Pierrot, de le dire. C'est comme Vincent et Denis, dans un moindre mesure, essayent de nous vendre la peur de cette équipe d'Écosse. Ils sont nuls, Vincent.
Ils ont été nuls. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls en Écosse contre la France.
Ils vont inventer des mecs, en fait.
Mais c'est toujours dur en Écosse.
Tu as vu l'Écosse l'année dernière, il y a deux ans, donc il n'y a plus d'équipe d'Écosse. L'Écosse, on perd régulièrement contre l'Afrique du Sud, en novembre, ils ont fait une tournée dramatique, ils ont perdu contre la Martinique et la Nouvelle-Zélande en novembre, il y a deux ans
ils sont dans une crise, c'est du jamais vu en Écosse. Greg Townsend, ils en sont à se poser la question de son maintien ou pas, qui travaille avec ton copain Peter de Villiers. Il est en guerre contre les médias, et là-bas en Grande-Bretagne c'est les Britanniques, c'est chaud. Il a écarté Van der Merwe et Kinghorn pour des raisons.
Van der Merwe, le blond.
Oui, il a choisi, et Blair Kinghorn de Toulousain, il a choisi de les mettre hors groupe alors qu'ils ne sont pas blessés. Donc là, il se prend la marée. Prochain match, ça peut être chaud pour lui.
C'est la marée.
2023,
ils en sont là. Prochain match, il y a Écosse-Angleterre. Je ne sais pas, attention quand même.
C'est à Rakuten à domicile.
Je vais te dire, Écosse-Angleterre, je vais te dire, en tout cas en Écosse, les Anglais méfient.
Non!
Les Anglais vont gagner en Écosse, ça ne sera pas 40 points et des bouffes, mais pourquoi tu dis ça, parce que tu vas voir la vaillance des Écossais, tu vas voir, soit raisonnable.
Toi qui adore la mêlée, qui est un grand connaisseur de la mêlée.
Il est pilard, là.
Si, c'était là, les pilards.
Tu déconnes, quoi.
Les pilards irlandais, tu vois.
Et là, les Écossais.
Les Écossais, il manquait les mecs.
Mais non, il manquait rien.
Il manquait la mêlée anglaise.
Schumann et Fagerson.
Tu vas voir la mêlée anglaise. D'origine sud-africaine. Qui vont les désosser.
Hello, Papa Tango, Charlie, Mort, Schumann.
En fait, ce qui est inquiétant, Vincent, c'est que depuis quelques années, ils avaient réussi à naturaliser deux piliers sud-af. Ils arrivaient peut-être à faire un peu plus l'affaire que avant. Là, ils se sont fait démonter.
Non, mais t'as plus de solution.
Mais là où Vincent a raison, c'est que les deux derniers Écosse-Angleterre, c'est l'Écosse qui a gagné en Écosse.
Et voilà, il a raison. Vous avez vu un match, je vous dis que l'Italie a été très bonne sous la flotte. La flotte, ça, bien sûr, ça équilibre un peu. C'est vrai que l'Écosse. Mais je vais te dire un truc, tout est relancé. Notre victoire n'est plus un épouvantail.
On ne fait pas le grand. Je l'ai assuré, quoi.
Non, je crois que t'étais à Bernard hier, non?
À Gaillac.
C'est lui qui l'a envoyé
les informations. Je te rappelle ton nom, t'as appelé la poignée, toi, à l'époque.
C'est bien connu, les Écossais, ils jouent jamais sous la pluie, c'est la première fois.
C'était plus dur pour
eux.
Parce qu'on parle de Écosse-Angleterre.
Je bataille.
Mais le France-Italie. Le France-Italie, c'est la troisième journée à Lille. On craint ou craint pas?
Non. Hartoum. France-Italie. Ça sera attention. Je suis un peu acculé, c'est vrai. Pays de Galles, il va le pas empêcher aussi. Non, mais moi, je me fais du souci pour les Gallois.
Accident
de la route à chaque voyage.
Le programme de la prochaine journée, samedi 15h10, Irlande-Italie.
Parfait.
Irlande-Italie.
Alors, Irlande-Italie.
Intéressant à suivre.
Attention aux Italiens.
Non, match nul, il va dire. Toi, si tu veux faire une belle cote, écoute-moi, oui. Denis. Mais sur l'Italie.
Très bien.
Avec un match nul à la mi-temps.
Oui, à 17h40, il y a ce Écosse-Angleterre.
Alors.
Et le lendemain, dimanche, donc, Galles-France à 16h10.
Alors, France gagne contre le pays de Galles.
Ouais. Ouais. Oui, ça.
L'Écosse gagne l'Angleterre.
Ah oui.
Voilà. L'Italie gagne en Irlande.
Non.
Perd par moins de 7 points d'écart.
Non, mais l'Italie marque plus de 3 essais.
Alors, ils perdent pas, mais ils marquent plus de points que l'Irlande.
3 essais, ils marquent plus de 3 essais, ça veut dire 4 essais alors. Plus de 3 essais.
Plus de 3 essais, ils ont marqué 4ème,
mais on arrête là.
Mais j'essaie de vous le raconter. Je vous dis la réalité parce que vous la voyez pas. Vous vrai, vous répétez, vous êtes là. Vous vous dites, bon voilà, l'an dernier, on a fait 6 ça. Tout a changé dans le tournoi. C'est plus du tout le même. Tout a changé.
En Irlande, il n'y aura pas de Brex, le centre qui a joué les 26 derniers matchs destination d'Italie. Il sera pas là, il est blessé.
Merci Pierre. Le rugby, ça continue à 16h. Faut-il changer une équipe qui gagne? On parle du 15 de France. Vous avez entendu l'alerte? Alors prenez vos téléphones.
Plus aussi l'Italie cette année.
Et envoyez 13 par SMS au 7 32 16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Il faut vous inscrire parce que le gros lot, c'est 30 000 euros. En vous inscrivant, donc vous participez à un tirage au sort vendredi, 13 jours de chance. L'un ou l'une d'entre vous va tourner la roue d'RMC.
Tout à fait.
Et sur cette roue, y a une somme de 30 000 euros à gagner. Voilà, c'est Vincent Moscato, je pense, qui fera votre bras.
Ouais.
Voilà, qui lancera cette roue.
Non, pas ça,
vous envoyez 13 par SMS au 732-16. 13 en chiffres ou en lettres.
Oula, oui.
On est généreux.
On est
comment ça s'écrit en lettres?
En lettres, alors, putain, alors, ça s'écrit.
T-H-E-R-E-S-E.
Ah, ça n'est pas, tu l'écris quoi? Z-E à la fin. 13
à la fin.
Z-E à la fin. 15h44.
Journal moyen première édition. On salue au passage Gonzalo Quesada, sélectionneur de l'Italie. Bravo. On n'a pas encore cité son nom, c'est quand même son boulot. Il nous écoute tous les jours, Gonzalo.
Alors, quel
attention à ce que tu dis.
Sur le premier essai, j'ai vu un enthousiasme. Il a tapé trois fois une semaine.
Bah ouais, il est stressé. C'est un grand stressé, Gonzalo Quesada.
Il est tendu. Met du bonheur dans tout ça.
Et puis, journal moyen première édition. J'ai une belle petite mâchoire paralysée de ce week-end chez un journaliste d'RMC et encore un gros coup marketing organisé par l'AS Saint-Etienne. Ça s'est passé dans le 20h de TF1. Ils sont là, Saint-Etienne. Hein. Ligue 2, tout le monde les voit.
C'est encore
Timothée Chalamet.
Voilà, ouais, ouais, lui, quand même. 15h45, le super Moscato Show. Maintenant, c'est plus la vedette en France. La vedette, c'est Marsupilami. Voilà, c'est ça.
Marsupilami encore.
Voilà, 15h45, le super Moscato Show. On revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le super Moscato Show.
15h47, on y revient, on est avec Denis Charvet, The Flower from Caen, Stifoun et Bréadrier, Gouet Pierrot, Dorian Pierrot.
C'est l'heure du journal
moyen.
La première édition.
L'actu, la culture, les médias, les mâchoires paralysées. Alors, une petite mâchoire légère. Encore un gros coup marketing. Là, je pense que c'était préparé, Vincent, réalisé par le club l'AS Saint-Etienne, en plein 20h de TF1. Vous allez me dire si vous y croyez ou pas.
Oui.
Et puis, un prompteur crée la polémique au JO d'hiver lors de la cérémonie d'ouverture. Petite polémique. Vous écoutez RMC, c'est le 2524e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
On débute avec les infos sur RMC. Il est 8h30 dimanche sur RMC. Les infos présentées par Grégoire Morelli. Fin du sujet d'Arthur Perrault sur Safonov, le gardien du PSG. Attention à la mâchoire, Grégoire.
Arthur Perrault pour RMC. Le coup d'envoi entre PSGOM, ce sera à 20h45 ce soir.
Il a failli abandonner. Fin de journal, fin de matinale.
Depuis qu'il a interviewé Trump, c'est plus
tout le même. C'était pas Arthur Perrault, c'était Grégoire Morelli qui présentait les infos.
Grégoire Morelli,
c'était juste après un sujet. Bon, on l'a écouté, il est pas mal. Il s'effondre, c'est un petit accident de voiture. Il a pris le rond-point. On écoute.
Arthur Perrault pour RMC, le coup d'envoi entre PSGOM, ce sera à 20h45 ce soir.
C'est énorme.
On aime ces mâchoires. C'est
belle mâchoire. On dirait du cessieux un peu.
T'en auras, t'inquiète, il va arriver.
Oh, voilà.
Il est du très bon cessieux là.
Ah oui,
oui, sans transition, c'est la suite de la tournée médiatique de Timothée Chalamet. L'acteur franco-américain est en tournée en promo pour le film Marty Suprême. Hier, il est invité du 20h de TF1. Vincent, Anne-Claire Coudray présente le journal. Et là, moi, je suis peut-être un mauvais esprit, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que l'AS Saint-Etienne a réussi un joli coup marketing. On commence à le savoir, il supporte les Verts. Et donc, on en a l'habitude. Anne-Claire Coudray lui pose une question sur les Verts à la fin du journal. Pourquoi pas? On parle foot avec un grand acteur. Pourquoi pas?
Vous avez aussi un autre lien très fort avec la France. C'est ce que vous disiez, vos vacances chez vos grands-parents.
Oui.
Ce qui vous a permis de devenir fan de l'AS Saint-Etienne.
L'AS Saint-Etienne, oui.
Vous en parlez énormément. Mmh. Et récemment, vous avez dit, pour 2026, mon souhait, ça n'est pas d'avoir l'Oscar, mais oui, c'est que Saint-Etienne remonte en Ligue 1. Ça, c'est de l'amour, non?
C'est vraiment l'amour. Et on verra, là, on est cinquième.
Mais pourquoi cette équipe?
Parce que c'est l'équipe de ma famille. Des Chalamet. Et je suis allé à Geoffroy Guichard, au Chaudron, en grandissant. Il y avait un Américain, Carlos Bocanegra, qui jouait quand j'étais petit. Ouais, il y avait plein de joueurs que j'adorais. Matuidi, et Dabo, et Payet, et Perrin.
Loïc Perrin, le grand.
L'équipe à l'époque.
Ouais, à l'époque, c'était le Saint-Etienne qui marchait. Je suis plus gamin que de la région, c'est pas mal. Donc là, ça va, c'est classique. Mais après, vous allez.
Choisir, on vaut mieux l'Oscar.
Oui. Non, mais bon, oui. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Là, il y a Anne-Claire Coudray qui sort de sous son bureau. Le nouveau maillot de Saint-Etienne, nouvelle édition, et forcément voilà, il se passe ça, et vous allez me dire après si c'est spontané ou si c'est pas préparé avec la Saint-Etienne.
Je sais que vous êtes un supporter exemplaire, que vous avez toutes les écharpes, tous les maillots, mais il y en a un que vous n'avez certainement pas, c'est celui-là.
Elle sort
le tout dernier maillot des joueurs avec lesquels ils vont jouer cette année.
42,
c'est énorme.
Et ils vous l'offrent. Vous savez que vous êtes le premier à le voir.
C'est vrai.
C'est un cadeau qu'ils
vous. Non, mais c'est magnifique. Regarde ce verre. Ah, c'est le. Allez.
Il embrasse le maillot.
L'opportunité.
Il joue un peu, lui.
De marquer un but et.
Ah bah, il faut le mettre et il faut aller jouer.
Ouais, c'est vrai.
Avec eux, peut-être un jour.
Et ensuite, il a enfilé le maillot devant 6-7 millions de téléspectateurs. Beaucoup pour l'équipementier, pour Saint-Etienne.
Oh, non, il le fait, c'est spontané.
Non, mais lui, oui, mais bon.
Magnifique comme
coup. Oui, mais bon. Pour eux, c'est inspiré.
Tout le monde lui pose la même question parce que Saint-Etienne. Donc lui, il joue le jeu.
C'est pas commun, c'est vrai.
Quand c'est le club de ton enfance, c'est marqué à vie. Quand il était en plus avec les grands-parents, c'est
les Chalamet.
Tout le monde. M, c'est grave, c'est
le position social. C'est une publicité.
C'est un ambassadeur extraordinaire.
Tu penses que c'est une demande de TF1 au club Saint-Etienne pour faire un cadeau?
Après, il y a CNN ou Fox News, on lui pose pas la question.
Si t'es directeur marketing de la Saint-Etienne, t'apprends qu'il y a Chalamet qui va aux 20h, tu passes un coup de fil à TF1, tu dis bon, on a une petite opération à vous proposer.
Moi, je pense que c'est TF1 qui l'a fait.
Tu crois?
Je pense même pas que c'est.
En tout cas, ça rend service à Saint-Etienne.
Oui, ça fait la visibilité. C'était bon, Étienne.
Mais quand t'es en Ligue 2, tu galères.
Oui, non, mais c'est pas mal. Au moins, oui, c'est un petit éclairage qui fait du bien. Il y avait Kevin Costner qui était au Super Bowl. Tout le monde un peu s'attache les personnalités pour dire.
Il n'y avait pas que lui.
Il y avait tout le monde.
Oui, tu dis Kevin Costner, il y avait le monde entier.
Il y avait tout le monde. Ouais,
sans transition.
C'est impressionnant le truc.
Spectacle et sport. Vendredi soir sur France 2. Sur RMC, également, cérémonie d'ouverture des JO d'hiver. Déjà, ça a bien marché. 6 millions de moyenne, une pointe à 7,6 millions de téléspectateurs. Et mini polémique, rien de grave. Maria Carré chante en italien. C'est magnifique. Elle chante bien quand même, Maria Carré.
Ouais.
Mais il y a un influenceur italien, un peu mauvais esprit, qui a pris en photo le prompteur. Oui, il est derrière.
En fait,
c'est pas de l'italien, c'est écrit en phonétique.
Oui.
Moi, je trouve que c'est encore plus fort ce qu'elle fait.
Oui.
Elle arrive à nous faire croire, c'est beau.
Mais elle parle pas italien. Elle leur fait l'honneur de chanter en italien, d'essayer de s'appliquer. C'est quand même.
Parce que nous, si on le met en phonétique, on sera nul en italien.
Non, mais elle a travaillé le morceau, probablement. Donc, c'est bien ce qu'elle fait. Voilà. Elle était super. La cérémonie, j'ai regardé.
C'était
mou.
Alors, un poil long. À un moment, au bout de 3h30, tu.
Ouais, un peu long. Non, moi j'ai regardé un quart d'heure, 20 minutes.
Oui, moi aussi, 20 minutes.
Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas accès, il faut savoir qu'il y a un prompteur devant Denis, c'est en phonétique.
Ça vient pas de toi.
Ça vient de l'autre andouille.
Fais un bisou.
Mais t'inquiète pas. Si tu veux, on fait le dictée. Même avec Fred, je me rends. Je fais pas de faute, moi, mais c'est pas grave.
Fred, nul en orthographe.
Moi, je ne ferai pas parce que je fais des fautes.
Fred, il n'y a pas de texto. Il y a le E ou le ER qui vient placer.
C'est bien beau de se moquer, Pierrot.
Ouais.
Ouais. Fred est un cancre, attention. Hein.
Oui. Ah oui. Sans transition. Vous en parliez il y a quelques minutes, et même en antenne pendant la pub, ça vous intrigue cette histoire. Le petit point box-office, cinéma.
Oui.
Un petit point sur le film dont le titre est Vincent Marsu. Marsupilami de Philippe Lachaud avec Jamel Debbouze, film assassiné par un critique belge.
Je vous diffusais la critique, l'horreur, la semaine dernière.
Je pense qu'il a pas vu. Comme quoi, il y a toujours un petit décalage entre les critiques et les spectateurs et l'accueil d'un film parfois. Seulement 5 jours, Vincent. 5 jours, hier, officiellement, le million de spectateurs est franchi pour le film de Philippe Lachaud. 5 jours, un million. Vous êtes des spécialistes. C'est un record depuis Astérix et Obélix en 2023.
Ah bah là, ça va 10 millions, ça.
10 millions ?
Sûr. Mais
non.
Mais il y a des vacances.
Il y a des vacances scolaires, absolument.
Il y a des vacances pendant un mois.
Ça, c'est
là.
Pour les gamins.
Ça dure un mois les vacances.
Tu
veux faire, tu fais un truc pour les gamins, tu le sors pendant les vacances.
Oui, bien sûr.
Non, mais c'est bien vu. Bien vu de Lachaud. Techniquement, c'est bien joué.
Et vous pouvez écouter, il était invité, Philippe Lachaud de Julien Cazard, Les Nuits du Canard enchaîné avec Jean-Christophe Drouet. C'était vendredi, c'est podcastable. Très bon moment.
Et là, c'est transféré en plus.
Ça doit balancer. Il avait chaud,
C'est excellent.
Philippe Lachaud,
Toi, tu dis 10 millions. 10 millions, il faut y enlever.
Je sais pas si c'était mis de la chaud ou truc comme ça.
Je dis pas 10 millions comme par hasard,
mais je sais que ça va vers les 10 millions. Ce genre de truc, c'est un truc pour les mômes.
Donc vacances, c'est parfait.
Donc vacances, ça peut partir. Voilà, il y a des mômes, ils n'y vont pas tout seuls, ils y vont avec les parents, bien sûr, donc automatiquement.
Et ton ami Pierre Ninet. Enfin, toi, tu l'appelles Pierre Ninet.
Ninet, oui.
Gourou, 1 million de spectateurs.
Non, mais c'est énorme. Bon, c'est
moi, j'ai beaucoup aimé, moi, la performance de l'acteur. Après, c'est.
Mais à ce moment, il n'y a que des grands films. C'est incroyable, des fois, t'as que des nazes.
Nuremberg.
J'ai été le voir. La femme de ménage, c'est extraordinaire.
LOL 2.
Non, avec non mais LOL 2, c'est la merde.
Il y a aussi Poutine. Poutine que t'as vu.
Poutine, avec
le match du Kremlin.
Cette année, hier, il y a 5-0 qui est sorti.
Ah, il y a 5-0 qui est sorti hier. Qui a fait un succès terrible. Et donc, non, mais regarde le nombre de films. Là, qu'il y a en ce moment, tu te regardes.
Il faut qu'on invite
ce soir.
Non, faut qu'on invite Pierre Ninet, fan de basket.
Hermann Göring
et Pierre Ninet.
Dans Basket Time. Le Göring, Nuremberg.
C'était sympa. Tu vois, c'est sympa.
Peut-être pas le mot, mais réussi.
Dans un instant.
Il était drôle. On parle du 15 de France, avec les retours notamment de Thibaut Flamand. Faut-il changer une équipe qui gagne? Vincent, règle le problème sur RMC.
Il est 15h56, le Super Moscato Show. On vient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show.